Bonjour à tous et bonjour à toutes, nous sommes le jeudi 23 janvier, voici les titres de notre Zoom Info. La société énergie renouvelable Languedoc Groupe Valeco était donc au tribunal judiciaire de Montpellier hier pour répondre de la mort d'un aigle royal. Le parquet a demandé une amende sévère et une suspension d'activité avec exécution provisoire. Nous échangerons avec Marjolaine Villemigraine, porte-parole du collectif pour la protection des paysages et de la biodiversité 3412, qui regroupe 65 associations du Nord Hérault et du Sud Aveyron, dont certaines se sont portées partie civile. En matière de pesticides, l'Hérault est bien classé et ce n'est pas une bonne nouvelle. L'Office français de la biodiversité confirme que c'est bien un loup qui a tué 3 chèvres à Péguérolles de l'Escalette. L'ouverture d'une piscine à l'Institut médico-éducatif de Saint-André de Sangonis est reportée à 2026. Nous l'avions annoncé mardi matin, la société énergie renouvelable Languedoc, groupe Valeco, était donc au tribunal judiciaire de Montpellier hier pour répondre de la mort d'un aigle royal. Une espèce protégée, au pied d'une des 7 éoliennes de Bernag-Lunas, au nord-ouest de l'Audève, dans le parc régional du Haut-Languedoc. Les faits se sont produits le 10 janvier 2023. Un mâle reproducteur, l'un des 18 spécimens du département, s'est fracassé contre l'une des pales d'une éolienne alors qu'il volait à 50 km/h. Le parquet a donc demandé une amende sévère et une suspension d'activité avec exécution provisoire. 6 associations, France Nature Environnement, la Ligue pour la protection des oiseaux Occitanie, l'Association pour la protection des animaux sauvages Aspas, la SPPEF Cité Monument et l'Association pour la protection des paysages et des ressources de l'Escandorgue et du Lodévois, l'APREL, se sont constituées partie civile. Nous recevons dans ce journal Marjolaine Villemigraine. Madame, vous êtes porte-parole du collectif 3412. Comment s'est déroulée l'audience et comment accueillez-vous la décision du tribunal ?
Alors, pendant l'audience, il y a eu plusieurs sujets qui ont été abordés. En premier lieu, la circonstance de la mort, parce que, évidemment, les juges posaient des questions sur ces circonstances pour savoir si les parties allaient reconnaître, en fait, que les faits, parce que c'est une chose qui n'était pas reconnue toujours. Et donc, je pense qu'ils ont quand même reconnu, étant donné qu'il y avait l'OFB, l'Office français de biodiversité, comme témoin, c'était l'organisme qui a récupéré le cadavre de l'aigle royal et qui a fait faire des autopsies. Donc, cette première étape a été résolue. Hein. Je pense que le gérant de la société et son directeur technique se sont accordés quand même pour avouer, hein, puisque c'était à la barre.
Pour reconnaître les faits.
Ils avaient dû reconnaître les faits. Voilà. Alors, après, ensuite, évidemment, la responsabilité. Alors, l'ERL a essayé de se déresponsabiliser un peu en disant c'est le préfet ne nous a pas demandé quoi que ce soit, il nous a demandé par contre des prescriptions. Et les prescriptions consistent à poser des systèmes de réaction, de détection et de réaction. Ouais. Mmh. Oui, les deux, en fait, pour lorsque un oiseau s'approche d'une éolienne. Il y a un système donc qui va mettre l'éolienne en drapeau. Mm-hmm. Hein, c'est-à-dire, malheureusement, quand on dit ce système-là, il ne fonctionne pas parfaitement bien parce qu'il n'arrête pas l'éolienne complètement. C'est ce qui a été aussi discuté dans les circonstances de l'accident, puisque l'éolienne tourne toujours à 2 à 3 mètres secondes. Et c'est à 1,5 mètres secondes d'ailleurs que l'aigle s'est fait prendre par la pale de l'éolienne et qui est mort. Voilà, donc ça c'était la première chose, c'était les circonstances de la mort. La responsabilité qui n'est pas du préfet, parce que le préfet, ils disent, bon, vous posez un SDA, il donne des prescriptions, et ensuite, qui est responsable de la mort d'une espèce protégée? Ben, c'est celui qui a causé la mort, donc c'est bien la société ERL.
Pardon madame, qu'est-ce que vous appelez un SDA?
Alors, système de détection de l'avifaune.
D'accord.
Okay. C'est l'appareil dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mmh. Voilà. Donc, la responsabilité a été dite par le procureur. Vous êtes responsable parce que vous avez tué des espèces protégées et il suffirait même que vous tuer qu'une seule espèce protégée pour que vous soyez condamné. Or là, dans ce cas précis, il y a eu aussi mort de 33 oiseaux, d'autres oiseaux, espèces protégées, et 44 chauves-souris depuis le 2017, dont un vautour moine, qui est une espèce tout à fait rare et en voie d'extinction, puisqu'il y a un couple dans l'Hérault, vous voyez, donc c'est très important aussi. Donc, il y a une responsabilité pour l'Aigle Royal, mais il y a du passé aussi. Un passé assez négatif pour la biodiversité.
Et le groupe ERL a invoqué également une dérogation.
Alors non, c'est le procureur qui l'a invoqué, parce que ERL n'a jamais voulu faire une demande de dérogation pour destruction d'espèces protégées. Pour vous expliquer, en fait, c'est un droit à tuer. On a dans le droit français, il faut demander un droit de tuer pour pouvoir, même si c'est pas intentionnel, pour pouvoir tuer une espèce protégée, parce que dans le droit français, il est interdit de tuer aucune espèce protégée. Il y a une liste des espèces, c'est la liste rouge, voilà.
De l'Union internationale de conservation de la nature.
Oui, et puis après, il y a aussi un classement des statuts de chaque espèce, qu'il soit national ou régional. Mm-hmm. Et donc, ce qu'il faut, quand on sait qu'il y a des risques, on doit faire cette demande de dérogation de destruction espèces protégées pour se couvrir, parce que évidemment, par exemple, on pourrait imaginer qu'on vous accorde de tuer deux martinets par an, etc. Vous voyez, des espèces protégées. Sauf que là, ils n'ont pas demandé. Mais le procureur a réussi à leur faire comprendre qu'ils l'avaient pas demandé parce qu'ils voulaient pas le demander. Parce qu'ils ont été sollicités quand même par l'ADREAL en 2012, même, ça remonte loin, et ils l'ont jamais fait. Et parce qu'ils savaient très bien qu'elle serait refusée. Parce qu'on va pas accorder la destruction d'un aigle royal quand il est unique dans un territoire.
Unique individu de son espèce. Ouais, tout à fait. Voilà. Non, quand j'invoquais la demande de dérogation de RL, il me semble qu'à l'audience, il disait que de toute façon, de demander des autorisations, ça retarde pour eux la mise en activité de leur l'exploitation en fait du parc éolien. Donc en fait, ils se gardent de demander des autorisations pour ne pas, selon eux, pénaliser leur activité.
En fait, ça prend pas tant de temps que ça, et puis ça fait très longtemps qu'ils auraient dû le faire, puisqu'ils ont déjà tué plein d'espèces protégées. Donc en fait, c'est là qu'ils sont responsables, c'est qu'ils ne l'ont pas fait, et que ils n'ont même pas, depuis l'aigle royal qui est quand même mort en janvier 2023, comme vous l'avez dit, ils n'ont pas du tout agi dans ce sens-là. Ils auraient essayé, ils auraient fait au moins la demande, ça aurait été des circonstances un peu plus atténuantes pour eux, mais là non, même pas. Ils ont continué à passer en force, à produire tant qu'ils pouvaient, en exploitant leurs éoliennes. Et donc c'est dans ce sens-là que le procureur a été très sévère, parce que il a dit, c'est une négligence voulue, enfin, depuis tant de temps, vous êtes responsable, vous savez bien que vous deviez le faire. Et ils savaient que si ils étaient on leur refusait la dérogation, et si en ayant tué une espèce protégée, une seule suffisait, et bien ils étaient passibles du pénal, ce qui est arrivé.
Et quelle va être l'étape, alors le délibéré sera rendu le 19 mars, mais pour vous, quelle va être l'étape suivante en fait?
Alors pour nous, on va attendre bien sûr la décision, puisque la peine maximale qui a été demandée par ERL, pour ERL, c'est 750 000 euros d'amende, dont 500 000 avec sursis, et puis une suspension d'activité, et puis 150 000 euros d'amende contre le gérant. En plus, chaque association a demandé 10 000 euros pour préjudice moral et certaines écologiques. Donc, vous voyez que c'est des sommes importantes. Et bien sûr, l'avocat adverse de ERL, bien sûr, a plaidé pour limiter, voire annuler ces amendes, bien sûr, en disant que c'était pas intentionnel. Ce n'est pas, évidemment, comme si vous prenez un braconnage, on tire sur un espèce protégée, là, c'est vraiment intentionnel, vous voyez, totalement intentionnel. Tandis que là, on n'a pas fait exprès, on a fait ce qu'il fallait, on a mis des systèmes pour empêcher, pour protéger les oiseaux, puis mince, ça suffisait pas, vous voyez, c'est un peu différent. Mais dans le droit français, si vous êtes, on estime que votre action est quand même intentionnelle quand il y a négligence. Et là, le procureur a dit, vous avez été très négligent depuis tant d'années que vous êtes responsable de ce défait.
Vous me disiez par ailleurs, madame, quand on a préparé cet entretien, que le tribunal de Montpellier, de plus en plus, prend en charge des affaires relatives à l'environnement ou à la protection de l'environnement.
Oui, tout à fait. C'est assez récent et donc il y a des journées, des après-midi particulières pour cela, juste pour l'environnement. Et notre plaidoirie, elle a duré 4 heures. C'est-à-dire qu'on a, elle a été reportée puisque la demande avait déjà été, il y avait une audience normalement en juillet dernier. Elle a été reportée hier et le report. Je ne sais plus ce que je voulais vous dire, excusez-moi.
Par rapport aux compétences du tribunal de Montpellier pour traiter des affaires relatives au droit à l'environnement ou à la protection de l'environnement.
Oui, voilà. Et donc maintenant, eh bien, c'est tout à fait vrai qu'on va de plus en plus dans le droit français pour la protection de l'environnement, parce que bon, vous savez que la biodiversité est en perte de vitesse, hein, voilà.
Avec cette affaire, enfin la mort de cet aigle, hein, tué par l'une des pales d'une éolienne, je le rappelle à nos auditeurs et nos auditrices, se pose aussi la question d'un conflit d'usage ou d'un arbitrage presque entre les énergies renouvelables qui sont nécessaires pour lutter contre le réchauffement climatique et la protection de la biodiversité. On se retrouve quand même, ça fait plusieurs fois dans notre région et dans notre département qu'il y a des affaires similaires avec le développement des énergies renouvelables, photovoltaïques et éoliens, et la protection de la biodiversité.
Oui, sauf que, si vous voulez, comme énergie renouvelable, c'est une énergie renouvelable électrique, hein, il y en a d'autres, des énergies renouvelables comme la géothermie, qui est très, très vertueuse, parce qu'elle empêche, elle évite de mettre du chauffage au fioul ou au gaz, donc elle évite directement des énergies fossiles. Tandis que là, l'utilité est peut-être plus contestable pour les énergies renouvelables électriques, dans le sens qu'on en produit réellement trop, puisqu'on en exporte, donc on a suffisamment, on consomme moins d'électricité, on exporte l'électricité, donc c'est moins indispensable que de protéger la biodiversité. Évidemment, il y a plutôt un conflit entre des personnes qui veulent investir et ont des avantages aussi, des subventions énormes pour poser ces centrales d'électricité, et puis la protection de la biodiversité, et surtout dans les montagnes du nord de l'Oder, qui sont dans le parc naturel régional du Haut-Languedoc, les crêtes de montagne, la situation est tout à fait impossible. On doit l'éviter, je veux dire.
Pour protéger cette biodiversité spécifique au parc naturel régional du Haut-Languedoc.
Oui, et surtout, il y a beaucoup de rapaces, de grands voiliers qui se sont installés à cet endroit parce qu'il n'y a pas beaucoup d'humains, vous voyez. Donc là, on est en train de détruire une avifaune protégée. C'est pas du tout l'histoire des chats qui tuent les oiseaux, hein, ou des vitres des maisons. Ça n'a rien à voir. Ce sont des espèces rares, souvent protégées, parce que qu'on a réintroduites, hein, parfois par des programmes LIFE européens, et qui ont déjà coûté très cher à réintroduire, parce que il y a une période où on sentait qu'elles allaient disparaître. C'est vrai pour le vautour noir, mais c'est même aussi vrai pour l'aigle royal, qui au début du XXe siècle était presque en voie d'extinction.
Très bien, je vous remercie Madame Villet-Migraine. Je rappelle que vous êtes la porte-parole du collectif 3412 et que donc le délibéré sera rendu le 19 mars. On en reparlera bien sûr dans un prochain journal sur Radio Pays d'Hérault, RPH Sud. Je vous remercie Madame.
D'accord, merci. Au revoir. Je vous remercie, au revoir.
Au revoir. L'Hérault est donc le cinquième acheteur de pesticides sur 101 départements selon la carte interactive publiée par l'association Génération Future. Les pesticides, ce sont des substances dangereuses pour la santé et l'environnement, et l'association indique que nous y sommes particulièrement exposés. Faute d'avoir accès aux registres d'épandage, qui ne sont pas rendus publics, L'association Génération Future s'est penchée sur un recensement des achats de pesticides par département et a cartographié les données compilées de 2015 à 2022. L'association en conclut que l'Hérault est donc particulièrement exposé aux pesticides et donc à leur effet sur la santé et sur la biodiversité, tout comme l'Aude et le Gard, deux départements limitrophes. Ainsi, toutes substances confondues, entre 2015 et 2022, le tonnage global des produits achetés dans le département oscille entre 1852 tonnes en 2015 et 1979 tonnes en 2022, avec un maximum de 2293 tonnes sur la période en 2018. La cartographie géophyto est donc détaillée par année, mais aussi par substance et par catégorie. Herbicides, fongicides, insecticides ou régulateurs de croissance, et selon le type d'association à un danger. Cancérigène, perturbateur endocrinien, toxique pour les milieux aquatiques, etc. Sur 101 départements, l'Hérault figure donc en 5e place pour la totalité des achats de pesticides et se trouve en seconde position, après la Gironde, pour l'achat des fongicides, juste avant le Gard. Selon Génération Future, les quantités importantes de substances achetées, qui sont suspectées d'être cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques, les CMR2, sont très préoccupantes. Saluons quand même la baisse de l'achat de glyphosate dans l'Hérault. L'interdiction de cet herbicide avait été évoquée puis retardée avant d'être finalement approuvée par l'Union européenne jusqu'en décembre 2033. Ce sont donc 59,5 tonnes de glyphosate qui ont été achetées dans l'Hérault en 2022. Contre 153 tonnes en 2015 ou 184 tonnes en 2018. Donc une baisse de l'achat de glyphosate dans l'Hérault quand même. Avec cette cartographie, Génération Future souligne un élément à la fois paradoxal et constant. À l'instar du Gard, de l'Aude et de la Gironde, l'Hérault est par ailleurs le département de France qui utilise le plus de substances autorisées en agriculture biologique. Il y a donc deux agricultures qui se côtoient dans notre département. L'attaque est survenue à Péguérolles de l'Escalette dans la nuit du 12 au 13 janvier et le constat dressé par l'Office français de la biodiversité le 21 janvier est très clair, c'est bien un loup qui a tué 3 chèvres sur la commune. Selon la propriétaire des animaux, l'attaque nocturne est survenue sur un troupeau de chèvres parqué dans un enclos situé sur la rive droite de la Lergue, non loin de la départementale 149 qui relie Poujols à Péguérolles de l'Escalette, donc à moins de 10 km de l'Odève. Une chèvre naine, un chevreau et une chèvre de 3 ans ont été éventrés. Les deux femelles étaient pleines et devaient mettre bas d'ici peu. Le troupeau d'une dizaine de chèvres, qui vit en semi-liberté dans un terrain d'environ 3 hectares, en partie clôturé, est situé à environ 300 mètres d'habitation. Tous les soirs, les animaux sont parqués dans un enclos. Cette prédation lupine, pour lupus, le loup, est une première dans la vallée de la Lergue, alors que jusque-là, elle se cantonnait au Larzac. Cette attaque pourrait accréditer les signalements de 2 habitants à Poujols et à Fosières qui affirmaient avoir aperçu un loup dans chacune de ces 2 communes voisines de l'Odève. Un loup avait été photographié cet automne sur le Causse, à Saint-Michel-d'Alajou, un village situé à une douzaine de kilomètres de Péguérolles. Pour Éric Suzanne, sous-préfet de l'Hérault à l'Odève et référent ruralité pour le département, rien n'indique que cela soit le même loup ou pas. Donc, rien ne confirme l'existence d'une meute, comme on a pu l'entendre ici ou là, ou ne confirme la présence d'un individu solitaire. La piscine de l'Institut médico-éducatif L'Ensoleillade à Saint-André-de-Sangonis, qui devrait accueillir les 3000 scolaires des 28 communes de la vallée de l'Hérault, n'ouvrira qu'en 2026. Initialement prévu en 2024, l'ouverture au public de ce bassin, qui ne sera pas un complexe ludique, avait été reportée dans un premier temps à la rentrée 2025. Apprendre à des enfants à nager, c'est une des missions des collectivités locales, et pour l'instant, il n'y a aucun équipement public le permettant sur un territoire qui compte tout de même 42 500 habitants et qui en accueille entre 600 et 800 nouveaux chaque année. C'est un report de quelques mois, assure pourtant Jean-François Soto, le président de la communauté de communes de la vallée de l'Hérault. Chargé de la rénovation du bassin, la collectivité chiffre le coût des travaux entre 1 et 1,5 million d'euros. C'est la fin de ce Zoom Info, merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, vendredi à 18h10 pour le reportage de la semaine et mardi prochain à 8h15 pour le prochain journal local. On continue sur les ondes de Radio Pays des Hérauts, RPH1, avec Au plaisir des mots, l'émission de Jean Montussac. Bonne soirée à tous et à toutes.